Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Un long silence à l'énoncé du verdict et quelques larmes parmi les proches des victimes. Après 54 jours d'audience pour tenter de comprendre le rôle qu'ont joué les 14 accusés au procès des attentats de janvier 2015, la cour d'assises spéciale de Paris a prononcé des peines allant jusqu'à 30 ans de réclusion et la perpétuité pour les complices des attaques. La qualification terroriste a été écartée pour 6 des accusés. Des victimes et même certains accusés ont salué une décision mesurée, vous l'entendrez dès le début de ce journal.
Et puis à la une encore, les premières vaccins contre le Covid-19 auront lieu avant la fin de l'année. Jean Castex a dévoilé hier la stratégie du gouvernement en promettant la transparence pour susciter la confiance.
Le calendrier s'accélère sous la pression de Berlin. L'Agence européenne des médicaments donnera lundi prochain son avis sur le vaccin Pfizer-BioNTech. Le Parlement doit définitivement adopter aujourd'hui le projet de budget 2021 et ses vertigineuses dépenses face à la crise sanitaire, mais aussi face à l'aggravation de la précarité et le remboursement de la dette Covid.
Et puis la question du jour, Catherine, des larmes de sang dessinées sur une Marianne que l'on doit à l'artiste Aubet. S'agit-il d'art ou de vandalisme? Je poserai la question à l'écrivain historien de l'art, Paul Ardenne.
C'était le procès d'une nébuleuse de personnes plus ou moins proches des terroristes et ce que dit cette décision, c'est que sans cette nébuleuse, il n'y a pas d'attentat. Voilà le sens que Richard Malka, l'avocat historique de Charlie Hebdo, a voulu donner au verdict rendu hier au procès des attentats de janvier 2015. De 4 ans de prison ferme à la perpétuité, des peines plus légères que les réquisitions du parquet. Le principal accusé, Ali Riza Polat, considéré comme le bras droit d'Amélie Coulibaly, la pièce maîtresse de ces attentats, écope de 30 ans de réclusion. Il a décidé de faire appel. Et pour Chloé Verlac, la veuve de Tinius, le dessinateur de Charlie, qui a assisté aux 3 mois d'audience, ce verdict est très important.
Je suis, pour moi et mes enfants, très heureuse déjà que ce soit fini. Je pense surtout qu'un des accusés avait peur que ce procès soit une vengeance et pas de la justice. Moi, j'ai l'impression que c'est la justice qui a été rendue et que justement, il n'y a pas eu de vengeance. C'est intelligent et c'est sensé. Le verdict pour ça a été important parce que le président a bien rappelé que l'islamisme radical semait la terreur en Occident. C'est important, c'est des phrases qui vont faire, j'espère, acte sur lesquelles on va pouvoir se reposer et qu'on va pouvoir apporter dans les écoles, qu'on va pouvoir développer. Et il fallait pour moi faire, c'était un assassinat politique, il fallait pouvoir faire un petit peu de politique aussi dans ce procès.
Un procès où 11 accusés seulement étaient présents à l'audience, 3 autres étant en partie en Syrie quelques jours avant les attentats commis par les frères Kouachi et Amédi Coulibaly contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher ainsi qu'à Montrouge, les terroristes ayant été abattus par les forces de l'ordre. La cour a donc rendu son verdict après 48 heures de délibéré dans un silence empreint d'émotion. La cour qui a largement nuancé les réquisitions des avocats généraux Florence Turm.
Les 5 magistrats professionnels de la cour d'assises sont restés pour la plupart des accusés en deçà des réquisitions du parquet national antiterroriste. Ils les ont toutefois suivis concernant les fuyards. Mohamed Belloussine, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, et Ayad Boumediene, la compagne d'Amédi Coulibaly, 30 ans de réclusion criminelle. La cour retient la plus lourde charge, la complicité de crimes terroristes à l'encontre d'Ali Riza Polat pour son rôle particulièrement actif dans la préparation des attentats. 30 ans de réclusion criminelle prononcée au lieu de la perpétuité requise par l'accusation. Et c'est important, cette complicité vise non seulement les actes terroristes commis par Amédi Coulibaly, mais aussi par les frères Kouachi. La cour a établi un lien indéniable entre les 3 auteurs et leurs actions menées de manière concertée. Le verdict distingue clairement ceux qui avaient une proximité, une relation directe avec Amédi Coulibaly, Willy Prévost, 13 ans de réclusion, Michael Pastor-Alouatic, 18 ans contre les 20 requis par l'accusation. Il s'est pris la tête dans ses mains en entendant la peine prononcée. Amar Ramdani, enfin, pour qui la cour a alourdi la peine demandée et prononcé le maximum prévu par la loi, 20 ans de réclusion. En revanche, le président Régis de Jorna a écarté la qualification d'association de malfaiteurs terroristes pour les 7 autres accusés, une infraction que la défense s'était employée à démonter en dénonçant un dossier vide de preuves. Pour autant, elle n'a pas obtenu les acquittements qu'elle demandait. Tous les accusés sont reconnus coupables, mais à des degrés divers, d'avoir apporté un soutien logistique aux auteurs des attentats.
Florence Turne, qui a signé pendant 3 mois des chroniques judiciaires, a retrouvé sur franceculture.fr la portée d'un verdict. On y revient dès 7h40 dans les matins avec vous, Guillaume Erner, mais aussi ce soir avec Emmanuel Laurentin dans le temps du débat dès 18h20 sur France Culture avec là encore Florence Turne, mais aussi le politiste Antoine Mégy et l'auteur de bande dessinée François Bouc, qui a été avec Yannick Enel chroniqueur judiciaire pour Charlie Hebdo.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Le gouvernement détaillera ce matin sa stratégie vaccinale devant le Sénat après l'avoir fait hier devant l'Assemblée nationale.
Les premières vaccinations devraient débuter dès la dernière semaine de décembre pour les personnes prioritaires. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre hier aux députés. Et la campagne montera en puissance jusqu'au printemps avec un accès au vaccin pour les Français jugés les moins à risque. Le débat sans vote hier a duré 3h30, suivi par Stéphane Robert.
L'objectif du Premier ministre hier était d'informer les députés, mais aussi et surtout de les mobiliser.
Le début de la campagne vaccinale ne va pas marquer la fin de l'épidémie. Il continuera d'être indispensable de mobiliser les autres axes de notre politique. Respect de la distanciation, port du masque, aération des locaux, etc. Nous avons besoin de vous pour relayer inlassablement ce message, en particulier avant les fêtes de fin d'année.
La campagne de vaccination débutera dès la fin décembre, l'aura dit Jean Castex. Elle ne sera pas obligatoire et sa montée en puissance sera progressive pour concerner l'ensemble des Français à la fin du printemps. Dont acte, lui ont-ils répondu.
Nous souscrivons pleinement à la gratuité du vaccin comme à son caractère non obligatoire.
Ils ne se sont pour autant pas privés de lui adresser leurs critiques. Par exemple, sur la gestion passée de l'épidémie.
Les informations dissimulées, voire les mensonges autour des masques animent encore douloureusement les discussions familiales.
Les députés ont également plaidé pour une transparence totale et à tous les étages.
La transparence économique nous intéresse.
La transparence sur les contrats de précommande passés par la Commission européenne. Nous connaissons les industriels concernés et les sommes engagées. Nous ne connaissons rien des conditions d'achat.
Après un peu plus de 3 heures d'échange, le Premier ministre a repris la parole.
J'ai bien senti quelques pics. Elles m'auraient manqué. Mais je voudrais saluer l'esprit de responsabilité. Je mesure bien que le Parlement, dans son ensemble, a parfaitement conscience du défi qui s'offre à nous.
Pour finir, Jean Castex a exhorté les parlementaires à ne voir dans l'action du gouvernement qu'une seule cohérence et qu'un seul objectif.
C'est la protection de la santé de nos concitoyens d'abord.
Reportage signé Stéphane Robert. Alors que la France a recensé hier un peu plus de 17 600 cas de Covid-19 en 24 heures, l'Allemagne, de son côté, veut débuter la vaccination le 27 décembre prochain. Elle qui est confrontée à une deuxième vague épidémique beaucoup moins maîtrisée qu'au printemps. L'Allemagne a enregistré hier un record de décès, 952 en 24 heures, pour près de 28 000 nouvelles infections. Sous la pression de Berlin, l'Agence européenne des médicaments a annoncé hier qu'elle se pencherait sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech dès lundi prochain, soit une semaine plutôt que prévu. La présidente de la Commission européenne tient à ce que les 27 pays de l'UE commencent à vacciner le même jour. À Londres, 2 semaines après leur réouverture, les restaurants et les bars doivent à nouveau baisser le rideau alors que la ville entre en niveau d'alerte maximale face au Covid. Par ailleurs, le gouvernement britannique s'est attiré des critiques hier après la contribution de l'UNICEF à une campagne pour nourrir des enfants de familles fragilisées par la pandémie au Royaume-Uni. C'est une première dans l'histoire de l'agence onusienne. Par ailleurs, la famine guette dans plusieurs pays et le taux d'insécurité alimentaire atteint des sommets. Le programme alimentaire mondial de l'ONU s'en inquiète. On y revient dans le journal de 7h30. Covid oblige, en France aussi, il a fallu augmenter des aides aux associations d'aide alimentaire et prolonger le soutien au secteur fermé administrativement, des mesures pour le ski, les aéroports. Le projet de loi de finances qui comprend tout cela, le projet de loi de finances pour 2021 arrive à la fin de son marathon législatif, voté dans la journée définitivement, Marie Viennot.
Fin septembre, l'hypothèse centrale du projet de loi de finances était qu'il n'y aurait pas de second confinement et qu'au dernier trimestre, la croissance serait positive. On connaît la suite. Deuxième confinement, fermeture des commerces, restaurants, lieux de spectacle et de sport, accompagné de nouvelles mesures d'aide. Il a donc fallu rajouter, selon Bercy, 8 milliards d'euros aux dépenses prévues au départ. L'opposition de droite a fustigé un trop-plein de dépenses. Pourquoi ne pas avoir financé ces 8 milliards en plus par une baisse des crédits du plan de relance? S'est interrogé Éric Woerth pour Les Républicains. L'opposition de gauche, constatant que cette crise va augmenter les inégalités, a regretté qu'aucune discussion n'ait été possible pour augmenter les impôts des plus riches, alors que l'Allemagne y réfléchit et que la nouvelle présidence américaine l'a également promis. Mais en France, pas d'augmentation d'impôts pour quiconque et même des baisses. Via la suppression totale de la taxe d'habitation, le gouvernement et sa majorité ont tenu cet engagement pour 2021 au prix d'un endettement record. 122% du PIB, c'est le chiffre désormais annoncé, mais pas forcément définitif. L'hypothèse majeure du texte qui sera adopté, c'est maintenant qu'il n'y aurait pas de troisième confinement. Cette fois, le ministre des Finances est plus prudent. Il promet déjà que si cela devait arriver, les aides seraient prolongées. Alors qu'il n'est pas encore voté, plane donc déjà sur ce budget 2021 la possibilité qu'il soit bientôt rectifié.
Pour la première fois, la justice britannique a reconnu le rôle de la pollution de l'air dans un décès, celui d'Ella Adoukissi Debra, une jeune londonienne de 9 ans, morte d'une grave crise d'asthme après avoir passé 3 ans de crises répétées et subi une trentaine d'hospitalisations. La jeune fille habitait près d'une route extrêmement fréquentée de la capitale anglaise. Alors que chaque année, en France, on estime que la pollution tue plus de 40 000 personnes, selon l'Agence européenne pour l'environnement, le juge pénal français pourrait bien s'inspirer d'une telle décision, selon Mathilde Autoreau-Boutonnet, professeure de droit à l'Université d'Aix-Marseille.
En fait, ce qui est très intéressant dans cette décision, c'est que cette fois, c'est une décision qui porte sur la responsabilité. Donc, on peut se poser la question de savoir si, par exemple, l'État peut être responsable pour ce qu'on appelle sa carence fautive en matière de pollution de l'air. Donc, il s'agit cette fois pour des victimes, donc personnellement nommées, qui souffrent physiquement, de demander réparation pour le préjudice corporel lié ici à la pollution de l'air. Ce qui fait que tout de même, la décision, à mon avis, anglaise est intéressante parce que ça peut donner une sorte de précédent, on va dire, puisque le juge français pourrait être lui aussi tenté demain de reconnaître ce lien de causalité entre une insuffisance d'action et une infraction précise. Alors, c'est pas exactement les mêmes qualifications, mais il s'agit de ce qu'on pourrait appeler un homicide involontaire. Et donc, il faudrait reconnaître la responsabilité, cette fois pénale, en matière d'homicide involontaire.
Mathilde Autoreau-Boutonnet, professeure de droit à Aix-Marseille Université, elle répondait à Thomas Larabie. C'est une prouesse technologique dans l'espace. La Chine a rapporté aujourd'hui sans encombre des échantillons de Lune, une première mission de ce type en plus de 40 ans. Objectif, mieux comprendre l'histoire de la Lune, sa formation et l'activité volcanique à sa surface. Cette mission a également permis d'affiner les technologies nécessaires à l'envoi de taïkonautes sur la Lune. L'objectif de Pékin, à l'horizon 2030. Camille Magnard y revient dans sa revue de presse internationale après le journal de 7h30. Quelques mots du temps de ce jeudi 17 décembre, marqué par des pluies, de la grisaille et quelques éclaircies. Les températures seront comprises entre 9 et 14 degrés du nord au sud jusqu'à 18 en Corse, Guillaume Hernet.
Merci Catherine Dutu. Dans quelques instants, à 7h25, le reportage de la rédaction, il nous emmènera à Sidi Bouzid, berceau de la révolution tunisienne. Mais tout de suite, dans la question du jour, une étrange histoire qu'on va vous raconter, la Marianne de l'artiste Obey. Avec des larmes de sang, s'agit-il d'art ou de vandalisme ?